Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trempez vite! Il est parfaitement ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans vos oreilles les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. J'ai Seb au micro et je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis en compagnie de Florence. Ça va Florence ?
Ça va bien, merci.
Je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien ?
Nickel, bonsoir tout le monde.
Et en compagnie de Bruno.
Ça va ? Bonjour Seb, oui ça va.
Parfait.
Bonjour tout le monde.
Hop. Alors, j'ai plein de petits trucs qui marchent pas. On essaye des nouveaux trucs techniques. On devait être en direct sur YouTube et YouTube a décidé de ne pas nous autoriser là tout de suite. Donc c'est pas grave, on va faire sans. Mais vous aurez la possibilité de voir le flux vidéo directement sur la chaîne YouTube de la case de Seb. Voilà, on a deux abonnés pour l'instant. Donc allez-y. Je vous transmets ça dès que je peux sur la plateforme. Voilà, fallait que je récupère mon conducteur. Voilà. Vous avez passé un bon week-end ?
Nickel.
Super.
Flo ?
Également.
Eh ben parfait. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans le chat de la radio. Vous allez directement sur l'onglet chat et puis vous pouvez. En plus, on essaie de vous parler. On y va d'abord avec les news, Flo. Ça te va ?
Oui, c'est parti.
Eh ben c'est parti. Quand tu veux. Si
alors,
ça veut bien marcher.
Je ne veux pas faire ce que je veux.
Pardon, désolé. Allez-y, je t'en prie.
Oui, alors le 8 et 9 novembre, on aura la 18e édition du Salon International de la BD à Valenciennes. Salon qui se tiendra à la Cité des Congrès. On y attend plus de 70 auteurs et autrices, dont Corentin Rouget.
On ne sait pas.
Auteur des séries 13, Mystery et Go West Young Man. Adeline Casier, illustratrice, auteur connu pour Sous les arbres, et Yannick Audebert, dessinateur connu notamment pour Pif le chien.
Cool ça.
Ces artistes ainsi que d'autres prendront le temps avec le public pour des séances dédicaces, et on aura des animations et des expositions pour tous les publics autour d'un programme manga, BD traditionnel, comics et jeunesse. Il y aura un partenariat avec l'Université Polytechnique des Hauts-de-France pour une conférence spéciale Manga, l'art de raconter entre influence et processus créatif. Et elle se tiendra donc le jeudi 6 novembre au sein même de l'établissement. Tarif gratuit pour les moins de 12 ans et compté entre 3 et 6 euros pour les autres publics.
Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta besace ?
Alors toujours à la même date, on aura un autre festival, donc celui de Saint-Jean d'Angély. Donc ça sera la deuxième édition. Festival organisé par l'association Les Heures Perdues de la BD. On aura environ 25 auteurs et autrices pour cette deuxième édition, dont certains bien connus, comme Isabelle Detang, autrice du Tombeau d'Alexandre, et Mazan, auteur de Donjon Monster. Et cette édition mettra particulièrement en lumière le talent également de Gwenda Lemercier à travers une exposition autour de son illustration d'Arsène Lupin. Au programme, donc, séance de dédicace et rencontres conviviales avec les artistes. Et une table ronde sera organisée le vendredi 7 novembre à la médiathèque de la ville. Elle sera animée par David Charrier, auteur local et... Pardon, j'ai le nom...
T'as bugué.
Voilà, Michel Ogriofa, scénariste pour découvrir les coulisses donc de la création d'une bande dessinée. Et l'entrée sera gratuite.
C'est top ça.
Et une autre actualité du mois, donc la sortie du film d'animation de Guillaume Hivernel, Les Légendaires. Donc ça sera le 28 janvier prochain. Mais il y aura déjà des avant-premières qui seront donc prévues dès le 9 novembre. Vous retrouverez donc les 5 enfants héros qui tentent de réparer une erreur magique qui a bouleversé le monde. Donc ça sera une aventure héroïque, drôle, avec un ton familial et épique.
Une BD que tu ne connaissais pas, c'est ça ?
Voilà, donc c'est une inspirée de la BD de Patrick Sobral, donc le film.
Ouais, voilà. un univers, si on peut en toucher deux, trois mots, un univers extrêmement étendu, puisqu'on a des romans, des mangas, de la BD, on a aussi des jeux de société, il y a même un jeu de rôle basé sur les légendaires. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, non, je t'écoute.
Une belle doigt comme à l'école. Effectivement, c'est un univers qui plaît beaucoup aux enfants. Et en fait, pour résumer un petit peu l'histoire des légendaires, on verra comment c'est adapté au cinéma. C'est un groupe de héros qui, lors d'un affrontement final, brise une gemme qui va rajeunir tout l'univers. Mais complètement tout l'univers. Et ce qui fait que tout le monde se retrouve coincé dans les corps d'enfants avec plus ou moins les souvenirs de ce qui s'est passé avant. Et tout le monde leur en veut parce que c'est pas vraiment un truc qu'ils kiffent. Donc voilà un peu l'univers, mais c'est vraiment une série qui marche très très bien, qui est cartonnée, voilà. Elle est disponible chez Delcourt, je crois. Ouais. Désolé de l'interruption. Je te laisse continuer.
Non, mais je te remercie. En tout cas, c'est terminé pour l'agenda.
Eh ben c'est parfait. Je vous propose, on va se faire une petite pause détente, le temps d'écouter l'interview que j'ai réalisée à l'occasion du festival de l'animation. J'ai interviewé Lia, qui est une créatrice manga. Et on va pouvoir écouter ça tout de suite sur le 101.5 de Radio G. Et on se retrouve tout de suite après.
Bonjour, je suis Sébastien, je suis en direct, quand vous le tournez, on ne sera pas en direct, mais du Festival de la Nuit au Pâté à Angers, et je suis en compagnie de Lia. Bonjour Lia.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, et ce depuis 3 dimanches d'avant, je propose des initiations autour du dessin manga pour le public qui vient au cinéma. Donc là, je suis là toute l'après-midi encore, jusqu'à ce soir. Voilà.
Donc du dessin manga dans le cadre du festival de l'animé.
Tout à fait.
Petite question, est-ce que tu es fan toi-même d'animé ou est-ce que tu es fan de films d'animation ?
Oui, j'aime particulièrement les films d'animation japonaise, mais après, je suis fan de l'univers artistique globalement. J'ai baigné dedans depuis que je suis petite, le cinéma d'animation dedans, grâce à mon papa. Et puis évidemment, en me perfectionnant dans le dessin manga, et bien évidemment, je me suis sensibilisée à l'animation japonaise. Voilà.
Là, dans le cadre du Festival de l'Animation, tu as vu plusieurs films, j'imagine.
J'en ai vu quelques-uns. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns, ouais.
Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a plu qu'un autre ?
Alors là, comme ça, en brut, je dirais Flo, le petit chat qui n'avait pas plus peur de l'eau. Un film d'animation qui a été primé à Annecy et aux Oscars, si je ne me trompe pas. L'année dernière. Et tout un film en silence, il n'y a pas de parole, tout ça. L'animation est une dinguerie, elle est magnifique. Et puis bon, j'ai fait que de pleurer parce que je suis quelqu'un de sensible. Donc c'est une histoire avec des animaux et où le monde des humains a disparu et ils doivent survivre ensemble, etc. Et c'est très beau.
Un très très beau film, effectivement. Pour ma part, dans mon émission, on parle plutôt bande dessinée, 9e art. Petite question sur les films d'animation. Est-ce que tu considères qu'un film d'animation, c'est un bon complément, c'est mieux que l'œuvre dont il est adapté ?
Alors, est-ce que c'est mieux ? Non. Par contre, c'est un. Au-delà de la complémentarité, c'est vraiment un chassé-croisé. C'est-à-dire que pour moi, l'image, si elle est fixe ou animée, elle forme un tout. Et pour moi, l'œuvre, elle se complète comme ça. En se croisant, en fait. Donc finalement, c'est pas si séparé que ça. Donc que ce soit des mangas adaptés en animé ou des animés qui vont donner des mangas, finalement, c'est pas très grave parce que ça fait partie de la culture beaucoup là-bas aussi au Japon où il n'y a pas cette césure entre les deux. Donc voilà, donc moi je considère que c'est très lié et que c'est très bien comme ça.
Est-ce que tu considères qu'une bonne adaptation de manga, c'est une adaptation qui n'est pas forcément fidèle? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que ce soit très case par case?
C'est une très bonne question que tu poses là, Seb. Un peu partagée. Parce que c'est vrai que quand on regarde un animé tiré d'un manga, bah on s'attend à avoir l'histoire qu'on connaît. Or, les partis pris quand même d'aujourd'hui, c'est d'inventer soit un peu plus l'histoire avec des spin-offs ou d'axer sur d'autres personnages, etc. Je ne saurais même pas te dire, parce qu'en fait, je suis partagée. J'aime les mangas de base, mais j'aime aussi avoir des histoires originales. Donc finalement, qu'importe ce que je vais voir en règle générale, je suis contente quand même.
Ok. Tu dis que tu aimes les mangas et les histoires originales, mais t'es plutôt version papier, plutôt animé, série, film c'est vraiment un mix des deux au quotidien?
Non, je suis plus manga, je dirais, quand même, malgré tout. Je travaille beaucoup autour du livre dans ma profession. Donc du coup, ouais, je suis plus autour du livre en tant que tel. Après, j'ai un compagnon qui est particulièrement féru d'animé, de séries, etc. Donc j'essaye de m'accrocher au wagon un petit peu de temps en temps quand il me sort des séries que moi je connais pas. Donc voilà, donc ouais, plus livre quand même. Même si j'ai pas trop le temps en ce moment de lire.
Et est-ce qu'il y a une œuvre, donc BD, comics, manga, que tu aimerais voir en adaptation, en film d'animation ? Existante ou pas, hein. Ça peut être un truc que tu connais déjà et que tu conseilles vraiment aux gens.
Alors moi, c'est existante, une œuvre animée que j'ai bien aimé voir parce que je suis une grande fan de la série manga, c'est Amagoness. Et j'ai beaucoup aimé la série animée, j'ai beaucoup aimé les OAV. Et en fait, je trouve que ça mériterait un nouveau film avec les technologies d'aujourd'hui en animation. Ça rendrait un univers magnifique avec les anges, le monde des déesses, à la manière un petit peu de... Enfin, je trouve qu'une animation à la Final Fantasy, ça marcherait trop bien, en fait.
Voilà. Je ne peux que être d'accord avec toi. dernière question, mais quand même sans doute la plus primordiale. Où est-ce qu'on peut te retrouver, réseaux sociaux, site internet
Sur Instagram, sur Facebook, particulièrement.
On tape quoi, Lia?
Lia-Kala-Hélène. C'est mon nom en entier.
Comme ça se prononce?
Avec un Y, le Lia, s'il vous plaît.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as des projets, des choses comme ça?
Oui.
Un message à passer?
J'ai des projets personnels. Là, j'ai fini mes projets édités. Donc, moi-même, je vais sortir mon premier manga et mes premiers chapitres de Webtoon dans le courant de l'année 2016.
Eh bien, on a hâte de lire ça et puis on en reparlera prochainement à la radio.
Et ça a été un peu abrupt la coupure. Je ne me rappelais pas avoir fait une transition aussi sèche. Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours Seb au micro. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec je ne sais pas quoi, c'est ça le truc. Oh là là, c'est la galère ce soir, hein. Mais ça va le faire. Tout à l'heure, on parlera de t'as deux chroniques, Bruno. On va faire un petit peu de teasing. Tu vas nous parler de chanteurs pas trop connus, c'est ça?
Ouais, des illustres inconnus, ouais, même.
Illustres inconnus.
Quasiment obscurs, on peut dire.
Eh ben, ce sera juste après. Tu connais Ginger?
Je vais.
Right and wrong, I crave all pleasures, minus pain. Let's have it my way, let it be no better gain. Drowning in wine, my cup I refill.
is all that's decided. And can't deny fear of death and God. But I am far from standing next to decide. I'm not a
terrorist.
Just wanna tell you.
101.5 FM. Et vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours Seb. Et on va se retrouver tous ensemble avec quelqu'un au téléphone. Est-ce que tu nous entends, Émilie ?
Oui, je vous entends.
Bonjour, ça va bien ?
Ça va bien, très bien, merci.
On va être ensemble un petit moment et on va parler de la sortie de ton dernier album qui s'appelle Ma vie d'instit, c'est le tome 4, ça s'appelle Une année de perles et c'est publié aux éditions City.
C'est ça.
Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas, ça veut dire que c'est les gens qui ne suivent pas l'émission, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on se voit à la radio.
Oui, eh bien, je m'appelle Émilie, mon nom d'autrice c'est Amy Bill et je suis à la fois professeure des écoles et autrice de bande dessinée. Je suis titulaire d'une classe de CE1, CE2 à Angers, mais je ne travaille qu'à mi-temps à l'école puisque la moitié de la semaine, je la consacre à la bande dessinée. Et donc, je réalise des BD sur mon métier d'enseignante.
Là, c'est le tome 4. Le premier tome, c'était... les premiers tomes s'articulaient surtout autour de perles des élèves,
oui.
Qui étaient du vécu. Hein.
Est-ce c'est que, ça, 100% vécu.
Est-ce qu'au bout de 4 tomes, on a toujours suffisamment de matière pour rajouter des histoires ou,
Oui, mes élèves m'inspirent toujours, leurs parents aussi, et puis... Maintenant, j'essaie aussi de faire passer des messages aux familles pour donner des petits conseils aux parents sur des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui comptent beaucoup dans la croissance d'un enfant, comme par exemple l'utilisation des écrans ou la gestion des maladies, des petits virus, voilà.
Tu me voles mes questions, c'était la question que j'allais lire après.
Désolé.
Où justement, je disais que on a cette évolution là où effectivement tu fais passer des messages qui passent de manière très pédagogique. Hein, je me permets, c'est un petit peu.
J'essaye, ouais.
Mais c'est très intéressant d'avoir justement les écrans, le vécu à domicile. Alors ça vient peut-être un petit peu de ce que tu as fait juste avant, qui s'appelait Derrière le portail. C'est ça, hein.
Oui, aussi, ouais, c'est vrai.
Où justement, il y a quand même pas mal de prévention. C'est difficile de faire passer des messages plus que de raconter des brèves ou ça vient naturellement.
Alors, je dirais que c'est plus facile de le faire en dessin que de le faire de vive voix lors d'un rendez-vous ou d'une réunion de parents, quoi. En fait, en début d'année, avec ma collègue, parce que comme je suis à mi-temps, on est deux à se partager la classe, et avec ma collègue, on fait notre réunion de classe pour présenter le fonctionnement de la classe aux parents. Et on fait toujours passer les messages par rapport aux écrans, mais on a l'impression que personne ne se sent concerné, en fait, alors qu'on sait bien que nos élèves, parfois, jouent beaucoup aux jeux vidéo ou sont mis devant des séries qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge. Et on a l'impression que les parents, ils pensent qu'on ne sait pas. Donc on fait passer le message et puis face à nous on a des gens qui nous disent oui évidemment on sait, moi je regarde pas la télé. Et en fait le faire sous forme de dessin, j'ai pas la réaction des gens en face, donc je dis les choses telles qu'elles sont et je me dis que ça peut que porter ses fruits comme ça, quoi. C'est comme tu dis, c'est un petit peu plus pédagogue peut-être de le faire en dessin.
Et puis le message, alors on reste sur les écrans, le message que tu fais passer à ce moment-là, c'est aussi que c'est pas parce qu'ils ne voient pas l'image, qu'ils ne perçoivent pas ce qui est dit, ce qui est fait,
exactement.
Et qu'ils ne ressentent pas.
C'est ça.
Bon,
et ça a des répercussions après sur leur comportement en classe, sur leur façon de grandir, d'évoluer, et ça peut aller bien plus loin que ce qu'on pense, quoi.
Tout à fait. Et puis ça se voit au quotidien.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon de travailler ? Tu récoltes tout au long de l'année en fait les brèves. Alors je rappelle à mes petits camarades qu'ils peuvent intervenir quand ils le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas. Mais tu récoltes les brèves tout au long de l'année et puis tu mets ça en forme au fur et à mesure ou au contraire tu te fais un gros bloc à un moment ?
En fait, je note dès que je vois quelque chose qui me plaît, enfin que j'ai envie de dessiner, je note sur mon téléphone, sur un bout de papier. Et après, je récolte tout sur mon ordinateur. En fait, j'ai un dossier avec plein de perles, dont des perles qui me sont arrivées, que j'ai vécues en début de carrière, parfois il y a 15 ans. Et quand j'ai envie de dessiner, je pioche dedans et je dessine celle que je choisis, quoi.
Et quand tu dessines comment?
Alors, j'utilise... j'ai deux tablettes. J'ai un iPad.
Okay.
Que je peux transporter partout, donc j'avoue que c'est assez pratique. J'utilise le logiciel Procreate, donc ça je m'en sers pour le brouillon, l'ancrage et la colorisation. Et après, pour tout ce qui est texte, mise en page, bulles, etc., j'utilise Photoshop, donc sur mon ordinateur avec une autre tablette.
Jamais de tradi, de crayonné à la main?
Jamais, non, que en dédicace.
Ça c'est mieux.
J'avais une...
Bah oui, hein.
J'avais une petite question, moi c'est par rapport au dessin, vu que à la base c'est pas ton métier, tu y es venu comment? T'avais déjà une base là-dessus ou c'est au fur et à mesure?
Alors j'ai toujours aimé dessiner, ma maman était prof d'art plastique en collège et moi je suis fille unique donc c'était mon moyen de m'occuper quand j'étais petite, mais j'ai pas du tout fait d'études dans ce domaine puisque j'ai fait un bac L avec option art plastique quand même, mais bon. C'était pas un gros niveau. Et après, j'ai fait une fac de lettres modernes avant de passer le concours de professeur des écoles. Donc, ça a vraiment toujours été un loisir. Et en fait, quand je m'y suis mise vraiment de manière sérieuse, c'est quand j'ai ouvert mon blog en 2015. D'ailleurs, ça fait 10 ans. C'était à la Toussaint 2015. Faut que je fasse un truc.
Bon anniversaire.
Merci. Là, du coup, je me suis mise à dessiner plus, à regarder des tutos, particulièrement par rapport à l'utilisation du matériel numérique, parce que je connaissais pas du tout. J'étais plutôt là pour le coup avec du papier, des crayons et de la peinture. Je peignais beaucoup, mais la tablette je connaissais pas. Donc je me suis formée sur le tas et je considère que j'apprends toujours aujourd'hui puisque je vois que mon trait évolue encore. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours, mais en tant qu'autodidacte.
C'est clair qu'à regarder les albums, alors moi j'ai pu les découvrir au fur et à mesure, on voit bien une nette évolution de ton crayon. T'affirmes un peu plus ton trait, il y a plus de détails aussi, je trouve, un petit peu.
Peut-être, ouais, c'est possible.
J'ai une question tradie. Si tu devais convaincre quelqu'un d'acheter ton livre en une courte phrase plus qu'un autre?
Eh bien, je dirais que mon livre, c'est une porte d'entrée dans le monde des enseignants, mais aussi dans ce que vivent les enfants au quotidien à l'école, et que c'est un moyen de découvrir un peu la face cachée des enseignants et de s'immiscer dans la vie de la classe.
J'avais dit une phrase courte, hein, mais...
Ouais, pardon. Ça, c'est mon côté littéraire.
Je vois bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Alors, sur Instagram, donc sous le pseudo EmyBill, donc EmyBill. Et sur Facebook, EmyBill, ouais, et pour mieux te croquer, enfin PMTC, pour peut-être qu'à la base mon blog s'appelait Pour mieux te croquer. Voilà.
Que ces réseaux-là ou il y a des plateformes?
Ouais. Ok. Non, je suis pas ailleurs.
Ok, parfait. C'est quoi tes prochaines actualités, si tu peux en parler ou pas? Est-ce qu'il y a un autre grand format comme tu avais pu le faire avec Derrière le portail ou est-ce qu'il y a un nouveau Ma vie d'instit qui est en cours déjà?
Alors, il y a un nouveau grand format qui est en cours d'élaboration, mais j'en suis à l'étape du contrat que j'ai reçu hier, donc j'ai 2-3 petits points à revoir, donc je préfère ne pas en parler pour l'instant.
Pas de problème, on respecte. C'est tout
Merci.
Fait.
Ce que je peux dire par contre, c'est que ça n'aura rien à voir avec l'enseignement. Voilà.
Eh ben,
je change.
J'ai hâte.
Je change de décor, j'en ai un peu marre de dessiner des salles de classe. Pour l'instant, mais j'y reviendrai parce que j'ai toujours l'inspiration, évidemment.
Oui, j'imagine que c'est des journées où effectivement t'es nourri tout le temps.
Exactement. Voilà.
Est-ce que t'as des actus en prochaine, des festivals où on pourra te retrouver, des séances de dédicaces?
Alors, je serai à la Ménitré au salon du jeu et du livre d'occasion dimanche prochain, là, le 9.
Ok.
Après, je vais à Toulon, donc ça fait un petit peu loin. Peut-être. je serai à Toulon à la fête du livre du Var du 21 au 23 novembre. Et après, je serai à Angers BD le 6 et 7 décembre.
Bon, on aura l'occasion de se voir là-bas.
Oui.
Le projet, alors je fais une toute petite digression, ce serait chez le même éditeur qu'actuellement ou pas?
Oui, le même éditeur. Ouais.
Fidèle au même éditeur. Impeccable.
Ouais, c'est ça.
Eh ben c'est parfait. Est-ce que tu voyais quelque chose que tu aurais voulu ajouter en rapport avec la BD, avec autre chose?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Eh ben c'est pas mal. Eh ben il me reste plus qu'à te souhaiter te remercier déjà de cette interview.
Ben merci à toi Zeb.
Et puis on se retrouve très prochainement pour ta prochaine publication. Et puis tu es la bienvenue en studio dès que tu veux.
C'est gentil, merci beaucoup.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Eh ben, c'était bien cool, ça. J'ai toujours du mal à enchaîner après une interview, en fait.
C'est pas facile en même temps, parce que t'as quelqu'un en face et après, t'as...
Il y a plus personne. Bruno, est-ce que tu veux enchaîner?
Eh ben, carrément.
Là, tu vas... c'est ma phrase d'accroche, du coup. Quel est le point commun entre David Bowie, Frank Sinatra et Buffalo Grill? Pas Buffalo Bill. Grill. Okay.
Absolument. Eh bien, le point commun, c'est Rock'n'Roll Suicide de Louise Laborie, évidemment. Dans une station balnéaire à la localisation indéterminée, trois jeunes adultes végètent tant dans leur propre vie que comme membres de Super Sonic Pizza Club, un groupe de reprises éclectiques de morceaux de rock allant des Beatles aux Arctic Monkeys. Ils écument les troquets et restos du coin, dont un Buffalo Grill. Nous y voilà. Iris, la batteuse, est serveuse dans un bar. Martha, guitariste et chanteuse, riche, oisive et rongée par son ambition de devenir une rockstar. Et Valentin, le bassiste à la timidité maladive, angoisse de se faire virer du groupe. Depuis toutes ces années où ils jouent ensemble, ils n'ont encore jamais rien composé et à ce rythme, leur rêve de carrière musicale s'éloigne implacablement. Mais voilà qu'ils décrochent enfin leur Graal, jouer au Ballroom, la salle de spectacle locale où se produit chaque semaine Lionel Chevalier, sosie taciturne et mystérieux de Frank Sinatra, dont il reprend le répertoire. Le thème classique d'une jeunesse engluée dans un bled de province qui sclérose très vite le moindre rêve de gloire est ici traité dans une chronique douce amère, mélancolique comme un ciel maussade de bord de mer. Le titre de l'album est une référence pas du tout innocente au beau et dépressif morceau de David Bowie, Rock'n'Roll Suicide. L'autrice fait aussi un clin d'œil sympa au mythique club des 27. L'âge de Martha au moment du récit. Le graphisme est sobre et expressif, les personnages sont bien campés et l'intrigue ménage son petit suspense jusqu'au bout. Voilà qui nous redonne une bonne raison de vivre en fin de compte.
Bah, ça a l'air un beau programme, ça.
Alors, Rock'n'Roll Suicide, c'est chez Sarbacane, c'est un one-shot, dessin et scénario Louise Laborie, et c'est paru le 1er octobre 2025, et 208 pages, 26 euros, donc on a de quoi lire.
Eh ben, impeccable. Tu vas maintenant nous parler d'un certain Paul.
En effet, je vais vous parler de Paul, mais pas Paul Gauguin le peintre, Paul Pogba le footballeur ou même Paul la chaîne de boulangerie. Je vais vous parler de Paul McCartney, l'illustre inconnu qu'on évoquait tout à l'heure. Et notamment du biopic concocté par Hervé Bourris sur une période fascinante de la carrière de ce bon vieux Polo, à savoir les 4 ans qui ont suivi la séparation des Beatles. Quand on a été l'un des membres du plus grand groupe de rock du monde et que tout s'arrête du jour au lendemain, même si on l'avait vu venir, que peut-on bien faire de ces journées? McCartney a commencé par l'option classique de la déprime copieusement arrosée d'alcool. Il faut dire qu'avec la fin des Beatles, la rumeur bidon sur sa mort, l'échec de son premier album solo, massacré par la presse et occulté par la sortie de l'album Let It Be, dont la production au passage a été sabotée, selon McCartney, par Phil Spector, célèbre producteur américain, ou encore le procès, carrément, contre ses anciens camarades et le nouveau manager véreux des Beatles, On peut dire que Paul a eu bien des soucis. Malgré tous ses déboires, McCartney va réussir le tour de force de remonter un groupe, les Wings, et d'en faire l'un des plus célèbres des années 1970, réussissant, presque, à faire oublier son statut d'ancien Fab Four. Bourris, qui est l'un des auteurs BD les plus éminents de la BD rock, auteur entre autres du Petit Livre Rock, du Petit Livre Beatles et de Retour à Liverpool, qui parle aussi des Beatles, nous fait revivre avec une érudition discrète cette page passionnante de la vie de McCartney en insistant sur le côté humain du personnage, ballotté par les événements, mais qui va s'en sortir grâce à son génie musical, la présence de sa femme Linda qui va lui remettre les pieds sur terre et aussi de sa forte personnalité. Car contrairement à l'image que beaucoup ont, Paul n'a jamais été le gentil garçon romantique, sorte d'antithèse de John Lennon. Il a composé les titres les plus rock'n'roll des Beatles et il pouvait se montrer très autoritaire, voire tyrannique, ce qui avait braqué George Harrison contre lui avec le soutien de Lennon. La façon dont il a finalement géré la fin et l'après-Beatles est révélatrice de sa force de caractère. En résumé, Paul se lit comme une fiction, grâce à la maîtrise narrative de Bourris, un choix de couleurs et une mise en page dynamique et inventive qui retrace parfaitement l'atmosphère de l'époque avec un dessin simple et efficace, comme une bonne chanson rock des Wings au hasard.
Eh ben, au hasard. Hein. Merci Bruno. On se redonne peut-être juste les refs. Hein.
Alors oui, pardon. Paul, la résurrection de James Paul McCartney 1969-1973. Enfin, joli titre. C'est chez Casterman, un one shot de Hervé Bourris. C'est paru le 9 avril 2025. 88 pages, 20 euros.
Eh ben, parfait. Parfait. On va se faire une petite pause musicale avant de reprendre sur la dernière partie de l'émission et on va avoir une chanson qui tombe bien du coup.
Ben, carrément.
Ce sera Magneto and Titanium Man de Paul McCartney, tant qu'à faire.
Alors des Wings en fait, et en fait en précisant que c'est pas innocent le choix de cette chanson parce que il se trouve que McCartney l'a faite en 1975 avec les Wings et que ça parle de Magneto, le héros de Marvel, et de Titanium Man, le héros de Marvel aussi. Donc Magneto, c'est l'ennemi juré des X-Men.
Puis, ouais.
Titanium Man, c'est l'ennemi juré de d'Iron Man. Donc, et McCartney lisait énormément de comics et il a dit et écrit que cette chanson, c'était sa façon de saluer la BD comme art majeur.
Eh ben, écoutons ça.
Je suis d'accord avec lui.
Et tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
105 FM.
Walking in the midnight sun.
Allez, on arrive sur la dernière partie de l'émission. Est-ce que je confie les rênes à Fabien ?
Ouais.
De Fabien, de quoi tu vas nous parler ?
Je sais pas, de manga peut-être.
Oh, bah tiens, c'est original ça.
Ouais, c'est original.
Est-ce que tu le passerais par là, qu'on puisse le mettre à la caméra, que vous ne voyez pas, chers auditeurs ?
Allez, je veux bien.
Hop.
Hop là.
Là, tu vas pouvoir le mettre par là, pendant que tu vas pouvoir parler. De quoi tu nous parles ? Explique-moi.
Alors, donc, bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous manga. Aujourd'hui, je vous emmène dans un titre qui a créé la surprise et qui a été acclamé par la critique au Japon. Il s'agit de Shimazaki in the Land of Peace, une œuvre forte signée Goten Hamada au scénario et Takeshi Seshimo au dessin. Œuvre publiée en France chez Pika Edition dans leur collection Seinen avec 208 pages au prix de 7,70 €. Et il est sorti le 17 septembre 2025, donc il y a maintenant déjà un petit mois et demi. Et il date de 2022 au Japon, et il est toujours en cours avec 10 tomes pour l'instant. Donc le pitch est simple, mais d'une efficacité redoutable. Il s'agit de l'histoire de Shingo Shimazaki, un homme qui aspire à une vie normale, au calme, après avoir passé 30 ans de sa vie comme une arme humaine au service d'une organisation paramilitaire à l'étranger. Enlevé étant enfant, et entraîné pour être un agent de combat impitoyable, Shimazaki a finalement déserté pour rejoindre son pays natal, le Japon, qu'il considère comme un véritable pays de la paix, un paradis sur terre. Nous le retrouvons alors qu'il a décroché un emploi dans un paisible salon de thé, savourant les petites joies du quotidien avec une candeur désarmante. Le plaisir d'un bon café, les échanges simples avec sa patronne et ses collègues. Mais cette façade de banalité est une illusion. L'ancienne machine à tuer est toujours là, sous la surface. Le scénario joue sur une tension permanente. Shimazaki est un homme capable de désarmer des menaces avec une rapidité et une précision sidérante. Un homme qui ne sourit presque jamais naturellement, hanté par la violence de son passé. Ce manga n'est cependant pas une série d'actions classiques. L'accent n'est pas mis sur les combats incessants, mais plutôt sur la problématique de la réinsertion. La rédemption est-elle possible pour un ancien combattant qui n'a connu que la guerre ? Shimazaki essaie de se fondre dans la masse, mais les menaces, qu'il s'agisse de créanciers véreux ou de personnes liées à son ancienne organisation, reviennent inévitablement perturber son fragile équilibre. Les auteurs utilisent ce contraste de manière brillante. D'un côté, on a l'ennui, entre guillemets, apaisant de la vie quotidienne japonaise. De l'autre, des scènes d'action brèves, fulgurantes et terrifiantes qui rappellent au lecteur et à Shimazaki lui-même qu'il n'est pas un homme comme les autres. Le dessin de Takeshi Seshimo est d'une justesse impressionnante. Il est sobre, très ancré dans le réel, ce qui rend les moments de violence d'autant plus crus et implacables. Shimazaki in the Land of Peace est une lecture mature, profonde et intelligente. C'est un seinen, donc pour ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, seinen c'est plutôt public adolescent à partir de 15-16 ans, on va dire à peu près, qui ose donc poser des questions actuelles sur l'impact de la guerre, le fardeau de la violence passée et la possibilité de reconstruire sa vie dans un monde qu'on a passé sa vie à détruire. Si vous cherchez un manga qui combine un thriller psychologique, un drame social poignant et des scènes d'action maîtrisées, je ne peux que vous recommander de suivre La quête de paix de Shimazaki. Pour le moment, je n'ai pu lire que le premier tome, mais celui-ci vaut vraiment le coup. J'ai passé un excellent moment et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite.
Et je confirme, je l'ai lu également, ça a été une très bonne surprise. En lisant le synopsis, je me suis dit, on va encore tomber sur quelque chose comme, attention, je critique le genre, pas les deux œuvres en question, mais comme Fable ou Sakamoto Days, où on a un tueur mis de côté qui va être obligé de reprendre du service parce que c'était le meilleur et compagnie. Là, c'est vraiment pas du tout le thème.
En tout cas, pas pour le moment. J'espère que ça ne va pas le devenir. Je ne pense pas, mais on va voir par la suite. Mais oui, moi j'ai aussi été très agréablement surpris. On va dire que je trouve que c'est par rapport aux œuvres que tu as citées, c'est plus mature. On est plus sur un récit adulte, entre guillemets, sur la façon d'aborder les choses. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture.
C'est vraiment très très agréable.
Et les dessins sont très cool. Certaines planches d'ailleurs, il les a fait, alors je sais pas de quelle manière, il y en a quelques-unes où on voit, il a fait une sorte d'aquarelle un peu, c'est un peu à l'encre, qui sont vraiment magnifiques.
On a cette impression-là, ouais. Je sais pas, je connais pas ses méthodes de travail, donc... Mais ouais, vraiment très très cool. Et puis la couve était, alors là vous pouvez le voir Vous le verrez quand on regarderait la reconstitution, mais on a le personnage avec ses lunettes et au départ je pensais qu'il était borgne et qu'il avait juste un voile, un verre opaque, alors qu'en fait c'est simplement le reflet d'une explosion d'une ville dans le reflet de ses lunettes et ça marche extrêmement bien.
Oui, exactement. Sachant que donc on le répète, c'est un seinen. En plus, il y a pas tant de violence que ça,
non.
Mais quand il y en a, elle est présente. C'est-à-dire qu'elle est présente et elle est dessinée de manière mature, donc pas c'est pas juste de l'action shonen, quoi. On est vraiment sur un récit un petit peu plus, ouais, un peu plus mature, quoi.
C'est un peu plus mature.
Ouais. Donc, je vais redonner les références. Donc, c'est Shimazaki in the Land of Peace chez Pika Édition. Il y a 208 pages pour 7,70 €. Au dessin, on a Takeshi Seshimo. Au scénario, Goten Hamada.
Eh ben, écoutez, de plus, rien, hein.
Allez le lire.
Ouais, lisez-le, c'est très très bien. Ouais, j'avais un truc que je voulais rajouter, mais j'ai oublié. C'est pas grave. c'est pas grave. Merci Fabien. Pour continuer dans ce qui nous a servi d'intro, on a été du coup avec Fabien couvrir le festival de l'animé du cinéma Pathé. On avait eu l'occasion de voir Demon Slayer en ouverture et très logiquement, il fallait qu'on voit Chainsaw Man en fermeture. Est-ce que vous connaissez, chers auditeurs, Chainsaw Man? Tu pourrais le résumer ou tu veux que je le fasse?
Je vais te laisser le faire parce que tu es plus récent que moi sur tu as fini il y a pas longtemps du tout toute la série animée des premières saisons.
Ouais.
Moi ça date un petit peu. Après le résumé de base est assez simple, mais
c'est assez simple. En gros, on suit l'histoire de Denji qui est un jeune garçon un peu couillon parce que il a quasiment connu aucune interaction sociale avec des gens de son âge. Il n'a pas été à l'école pour une raison assez simple, c'est que son papa était criblé de dettes et que il a préféré se pendre et laisser ses dettes à son fils. Y a un mafieux qui s'est dit bah écoute, toi t'es mignon comme gamin, tu vas venir bosser pour moi. Et puis un jour, Denji rencontre un petit démon, puisque dans cet univers-là, il y a des démons, un petit démon tronçonneuse, tout mignon, un petit chien à qui il va sauver la vie. Et il va se mettre à chasser des démons pour le compte de ce mafieux, puisque c'est un moyen de rembourser sa dette. Mais comme il est un petit peu bête, il se fait surexploiter. Plutôt que de vendre le corps du démon qui vaut très cher, il se fait facturer par le mafieux le fait d'enlever ce corps de démon. Pas très cool. Et puis un jour, il va décéder et ce petit chien tronçonneuse va prendre la place de son cœur, lui permettant de devenir le Chainsaw Man, que vous voyez directement sur la couverture. Et il va se faire embaucher par le bureau
d'investigation.
Ouais, le bureau d'investigation, j'ai plus le nom exactement.
Le premier bureau, ça y est, j'ai un doute.
En gros, il y a deux organisations, il y a les privés qui vont trucider des démons, et il y a la version nationale, administrative.
Sécurité publique,
Sécurité publique,
ouais,
voilà. Et il va se faire embaucher par la sécurité publique pour aller trucider des démons, en échange de quoi il pourra éventuellement, peut-être à un moment, ploter des seins.
Oui, voilà. Parce que ça fait partie d'un des plots du manga.
C'est
son goal de vie qui est complètement débile, mais ça va, je trouve qu'ils en abusent pas trop non plus.
Ils
donc,
en abusent pas trop.
Ça reste plutôt cool.
Et c'est un manga, au départ, effectivement, sur ce synopsis-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Ça va être relou, ça va être chiant. Et en fait, ça marche très très bien. C'est un manga qui s'articule principalement sur les besoins rapides et les interactions sociales de gens qui ont beaucoup de mal, puisqu'ils sont tous complètement fracassés. Il y a aucun personnage qui va bien dans sa tête. Tous ceux qui sont sur la sécurité publique, on va rester sur ce terme-là, hein, je sais plus exactement, ils vont pas bien, ils ont tous des buts un peu particuliers, dont un des grands buts est de retrouver le démon flingue. C'est un point que j'ai pas abordé, je l'aborde très rapidement avant qu'on passe après, c'est que les démons vont tirer leur pouvoir de la peur qu'ils peuvent inspirer. Et le démon flingue inspire une énorme peur, et c'est un démon très puissant. Le démon tronçonneuse a l'air de faire assez peur, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Tu vois, au début du manga, il y a le démon tomate qui fait pas très peur, par exemple.
Oui. Non, exactement.
qui a très peu de pouvoir. Et du coup, c'est une série télé en 12 épisodes, 10 ou 12 ?
Je ne sais plus.
Je ne sais plus, qui a cartonné, qui est un petit peu atypique, puisque c'est une série qui a été formée en... L'auteur est fan de cinéma et le studio MAPPA qui ont adapté la série ont voulu garder un format cinéma, ce qui fait qu'on n'a pas le triptyque shonen habituel sur la montée, l'amitié, le plus fort que la mort, ce qui est pas du tout un des thèmes de base.
Non.
Et chaque épisode de la série a un ending différent, un nouveau générique à la fin, qui sont tous absolument dingos, que je trouve vraiment très génial.
Moi, ce que je rajouterais par rapport à Chainsaw Man aussi, je trouve qu'on est sur ce genre d'œuvre où on est entre deux, on est entre le shonen et le seinen quand même.
Ouais.
On n'est pas sur du shonen classique, on n'est pas sur un Naruto ou un Dragon Ball. Hein. On est quand même sur une étape un peu au-dessus, avec une double lecture possible, et qui est très intéressante au vu de la personnalité un peu dérangée de chaque personnage.
De complètement tous les personnages, ouais. Et puis, c'est un... Il est plutôt destiné à des ados quand même, ados plus, parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques liées au sexe, et c'est un manga qui est un petit peu gore quand même, il y a beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine, donc voilà, c'est pas pour tous les publics.
Étant d'ailleurs interdit au moins de 12 ans en salle.
C'est ça. Et du coup, le film, ça fait la suite directe de la série, c'est un arc qui existe dans le manga. Est-ce que tu veux essayer de résumer le film?
Oui, on va.
Ça c'est frais du coup.
Ouais, ça c'est frais. on l'a vu il y a pas trop longtemps, donc ça devrait aller. Donc en fait, c'est l'arc Rezé. Donc Rezé, c'est un personnage principal qui arrive en fait pour cette saison-là, on va dire, parce qu'au finalement, ils ont tout condensé dans un film.
C'est ça.
Et bon, on va forcément en parler un petit peu. Hein, ça va pas spoiler les grandes lignes, mais de toute façon, tout le monde sait à peu près qui est Rezé quand on va voir Chainsaw Man. Donc forcément, c'est un démon, mais très puissant. Et on va donc suivre en plusieurs parties, on va dire, toute une amourette entre le héros, ce personnage-là. Et forcément, cette amourette va mal se terminer, puisqu'il va y avoir un énorme combat dont on va pouvoir parler un petit peu après.
Oui.
Et après, un ending très particulier. Donc là, je vais rien dire non plus, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà lu en général quand ils vont voir Chainsaw Man. Et qui conclut assez abruptement le film.
Le film. Je vais ajouter un petit truc, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas cet arc précis, on peut avoir un doute. Alors, il y a eu plein de teasing, il y a eu plein de visuels qui nous permettent d'identifier justement qui est Rezé, mais il y a qu'une seule personne dans tout le film au tout début du film qui ne se doute absolument de rien, c'est Denji, le héros. Il sait absolument pas que c'est un démon.
Bah, qui colle complètement au personnage un peu bêta qu'il est. De toute façon, il est naïf au possible. Il a du mal à réfléchir, on va dire. Donc forcément, ça va très bien. Il est très candide. Donc il plonge à bras le corps dans les bras, on va dire, de cette magnifique jeune fille.
Qui lui donne de l'affection. Chose dont il manque énormément, en fait.
Exactement. Donc il obtient exactement ce qu'il veut, entre guillemets, ou ce qu'il recherche grâce à elle. Avec son petit côté penchant, parce qu'il a un double jeu entre guillemets, parce qu'il aime un autre personnage, donc du coup il a une petite ambivalence.
Oui, il a du mal à
savoir comment faire par rapport à ce double sentiment qu'il a.
Mais il vit une adolescence très condensée en fait dans ce passage-là.
Exactement.
Et le film justement, il est en deux parties.
Oui, tout à fait.
Une première partie qui est vraiment sur Denji qui découvre l'amour et les gentils sentiments qu'il avait pas forcément avant, parce que c'était pas tout à fait les mêmes émotions qu'il avait avec l'autre jeune femme.
Non, pas du tout. Okay. Elle est barrée au possible aussi, mais de manière complètement différente. Donc là, on est vraiment sur une amourette adolescente, en fait. Il découvre ce que c'est que des petits moments de plaisir du quotidien avec cette très belle jeune fille, en plus, qui est adorable, vraiment, clairement, avec lui et tout ça.
Et ça, c'est la première partie du film qui dure une demi-heure. Ah
ouais,
trois quarts d'heure.
Ouais, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, je dirais. Donc, on est vraiment sur tranche de vie ou romance, clairement.
Chose qui pourrait ennuyer quelqu'un qui est habitué à un peu pas mal d'action et qui est complètement logique dans l'univers de Chainsaw Man.
Exactement.
Parce qu'on a toujours ces petites tranches de vie qui servent à montrer qu'ils ont une espèce de normalité malgré les actions qui leur arrivent. Et il se passe un truc.
Et puis
ça part en vrille.
Et ça part en vrille complet. Et là, on en a pour 40 minutes de combat, mais
quasi non-stop.
Quasi non-stop et d'une animation exceptionnelle avec une bande son exceptionnelle. On en prend plein les yeux. On a eu la chance en plus de voir ça à l'IMAX, au pâté. Donc là, je vous dis pas avec le grand écran et le son, les fauteuils qui vibrent et tout avec les basses. Et tout. C'était fou. Le MAPPA et je crois que en termes de studio d'animation, là, ils ont sorti un truc. Exceptionnel. Vraiment, là-dessus, rien à dire.
Vraiment assez dingue. Et puis ça va crescendo. On a une scène d'action digne d'un grand manga au départ, et ça part dans l'absurde. Ceux qui connaissent Chainsaw Man ne sont pas surpris de voir des trucs complètement what the fuck, mais ils arrivent à nous surprendre. Ça marche très très bien. C'est cohérent avec l'univers. Il y a pas à dire, et ça s'arrête pas. Alors je pense que les gens qui aiment pas l'action vont peut-être à un moment se dire ouais trop too much. Et en fait non, ça, on est porté. Il y a des petits ralentissements. Et il n'y a pas de ventre mou dans cette grande scène d'action, ça ouais, s'enchaîne non, tout le temps.
En plus, ils arrivent à, malgré tout à varier, ça ne se passe pas forcément toujours au même endroit, il y a quand même des choses qui se passent pendant 40 minutes, on n'est pas sur un seul truc, qui, ouais. Voilà, là il y a vraiment des rebondissements, et il y a des scènes, certaines scènes qui sont quand même assez violentes quand même, hein, donc c'est pour oui. ça qu'il interdit au moins de 12 ans, et non, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Et puis ce personnage de Rezé est ultra puissante.
Ouais,
forcément. Donc on va pas dire le nom du démon juste pour le fun, mais non, bon, on va laisser ça. Mais voilà, ça marche bien et le découpage. En fait, Fujimoto étant un grand fan de cinéma, il y a énormément de refs. Il aime ça et du coup ça colle très très bien de pouvoir faire ça en film. En fait, ils arrivent à faire des plans qui sont top. Clairement, ça marche très bien.
Mais il s'inspire du cinéma pour faire un manga et le manga. C'est, on se...
Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a un parallèle qui marche très très bien. Ouais.
Bref, je pense que vous l'avez compris, nous on a kiffé, c'était un très bon moment. J'aimerais bien avoir un autre film Chainsaw Man, je sais pas si c'est prévu.
Je ne sais pas non plus comment ils vont faire la suite. Est-ce qu'ils vont repartir sur du classique en saison, ou est-ce qu'ils vont se dire bon, ça a plutôt bien marché, parce que ça a clairement bien marché.
Oui.
Et en plus de ça, le format s'y prête vraiment. C'est donc à voir pour la suite comment ils vont faire.
Ouais, ouais, et puis alors les pas tout à fait, si j'ai bien compris, il n'est pas tout à fait au même niveau que Demon Slayer en termes de classement dans les charts, mais bah, il a pris la place de quasiment tout ce qui pouvait être au-dessus au moment de sa sortie, donc ça a été vraiment très bien.
À titre personnel, j'ai préféré ma séance de Chainsaw Man à celle de Demon Slayer. Mais après, ça reste un avis perso, j'ai beaucoup aimé aussi Demon Slayer.
Bah écoute, j'ai bien kiffé les deux, par contre, je préfère vous préciser, si vous avez rien lu de Chainsaw Man, y allez pas, vous comprendrez pas le film par contre. Là où Demon Slayer, c'est un peu plus accessible quand même.
Ouais, c'est sûr.
Au moins sur le premier film.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'on peut être un peu perdu dans l'univers de Chainsaw Man, qui est quand même aussi assez particulier.
C'est un peu touffu, un peu ouais, particulier.
Les personnages, il y en a quand même beaucoup.
Ouais.
Donc, ouais, si on connaît pas du tout, ça peut être un petit peu dur.
Et puis là, y a pas du tout d'intro pour te prendre par la main et dire, au fait, il se passe ça.
Non.
Absolument pas direct. Prévu pour. Si vous souhaitez faire la série papier de Chainsaw Man, ce qui est tout à fait possible et que je conseille, hein, sachez qu'en France, vous pouvez trouver les mangas chez Crunchyroll Kaze. Il y a actuellement 20 tomes publiés en France. En VO, ils sont à 22 tomes, donc préparez-vous à attendre un petit peu entre chaque tome, même si le rythme a l'air d'être quand même plutôt soutenu. C'est complètement barré, on le rappelle. Le manga, lui, par contre, est conseillé à 14 ans plus, donc ce qui est complètement... crédible et compréhensible. Voilà, voilà. Moi, j'étais... Voilà. Je veux bien qu'on refasse un festival de l'animé. Sachez qu'en plus, il y a un autre film, un gros film d'une série qui cartonne qui devrait sortir dans pas très longtemps, Jujutsu Kaisen, qui devrait sortir d'ici un mois, je crois.
Ah bah, tu vois, j'avais même pas trop vu la date. J'avais pas regardé. Mais ouais, non, bah...
Ça reste une des grosses séries.
Oui. Hein. Ah bah oui, oui, de toute façon, clairement... J'ai l'impression quand même qu'on part beaucoup sur ce nouveau format au niveau de l'animé. Chose qu'on n'avait pas du tout avant, en fait. À partir du moment où une série était mise en épisode,
oui,
ça restait comme ça. Et là, maintenant, il commence à passer vers d'autres.
Éventuellement, d'autres les films étaient des fillers, des choses oui, qui étaient ça. En extérieur.
Ouais, exactement.
Donc, voilà. Ok, ok. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. De quoi on a parlé? On a parlé de Shimazaki in the Land of Peace, de Guten Hamada et Takeshi Seishimo aux éditions Pika. On a parlé de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto aux éditions Kaze. On a parlé de Rock'n'Roll Suicide, de Louise Laborie aux éditions Sarbacane. On a parlé de Paul d'Hervé Bourris aux éditions Casterman. Et on a parlé de Ma vie d'instit avec son autrice Amy Bill aux éditions City pour la sortie de son tome 4. Ça fait beaucoup de lecture. J'espère que ça vous a plu. Et ça vous a plu dans le studio ?
Ah bah carrément.
Ouais, ouais.
Et ben parfait. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le podcast directement sur le site de Radio G dans quelques instants et normalement dans quelques jours si j'arrive à l'uploader de demain la vidéo qu'on aura dû diffuser sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans 15 jours et puis en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben je peux de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
But it was so... Nothing ever felt right.